Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir, malgré circonstances très particulières. Merci aux Archives Contestataires pour l'organisation de cet événement. Bien entendu, je ne vais pas revenir sur tout le contenu du bouquin ce soir, ça serait un petit peu trop fastidieux, mais je vais présenter en quelque sorte les origines, la vie et la mort de ce qu'on a appelé le mouvement d'amitié avec la Chine en Suisse, en utilisant avant tout des archives que j'ai pu trouver justement aux Archives Contestataires, pas uniquement, mais en bonne partie. Alors je ne sais pas s'il y a... Vraisemblablement, certains de vous qui sont membres des Archives Contestataires ou qui ont été membres des associations d'amitié, qui ont fait des voyages en Chine, donc on pourra en discuter très volontiers à l'issue de la présentation. Alors, je vais commencer tout d'abord par un peu resituer historiquement d'où vient ce mouvement d'amitié. Je vais fréquemment faire des allers-retours entre le contexte international et ce qui nous concerne, le cas vraiment suisse, voire genevois. Et tout commence naturellement avec la prise de pouvoir des communistes en Chine, avec la proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949 sur la place Tiananmen par Mao Zedong. Et cette prise de pouvoir des communistes en Chine a été généralement perçue dans le reste du monde comme l'aboutissement d'une lutte plus que centenaire. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, donc une lutte contre avant tout l'influence et l'impérialisme des puissances occidentales, des luttes qui passent à travers les guerres de l'opium, tout un tas de soulèvements, révolte des boxers, etc. Puis lutte aussi contre l'occupant japonais à partir des années 30. Puis après la Seconde Guerre mondiale, victoire du Parti communiste chinois contre les forces dites nationalistes de Chiang Kai-shek, donc le Kuomintang, qui sont ensuite retirés sur l'île qu'on appelait Formose à l'époque, de Taïwan. Et très rapidement, Mao Zedong a expliqué sur la scène internationale qu'il ne penchait que d'un seul côté, ce qui signifiait bien sûr dans le contexte de la guerre froide qu'il se ralliait au camp socialiste et notamment aux grands frères, aux voisins soviétiques. Et malgré ça, là aussi vous l'avez peut-être entendu dans les médias récemment, la Suisse a été l'un des premiers pays occidentaux à reconnaître diplomatiquement cette Chine communiste comme la Chine légitime, contrairement à ce qui était le cas de la plupart des pays occidentaux qui encore reconnaissaient cette Chine, la Chine de Taïwan que j'ai mentionné comme la Chine véritable. Et ce qui peut paraître un petit peu étonnant compte tenu de l'anticommunisme assumé de la Confédération à l'époque. Alors, je ne reviens pas sur les raisons, en tout cas pas maintenant, sur les raisons qui ont motivé cette reconnaissance, on pourra peut-être en discuter un petit peu après. Et en ce qui concerne la Chine, elle a assez rapidement, dans les années 50, acquis un certain prestige sur la scène internationale, notamment à travers quelques événements que je mentionne ici. Elle a montré ses capacités militaires et stratégiques durant la guerre de Corée. Elle a brillé diplomatiquement à la fameuse conférence de Genève, donc cette convention sur l'Indochine, qui a abouti à la partition du Vietnam en deux parties, avec le ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, Zhou Enlai. Puis au sommet qu'on a appelé le sommet des non-alignés à Bandung en 1955, qui a marqué un petit peu le départ du mouvement dit du tiers-monde. Et au-delà de ses succès sur la scène internationale ou sur le plan intérieur, domestique, pour beaucoup d'observateurs étrangers dans les années 50, la Chine, et en particulier les politiques lancées par Mao Zedong, semblaient avoir porté leurs fruits, notamment sur les domaines de l'hygiène, de la santé, de l'éducation, l'alphabétisation des masses chinoises. Mao semblait aussi avoir mis fin aux privilèges, à la corruption, aux inégalités, et le croyait-on en tout cas, mis fin aux famines, jusqu'à l'échec, bien entendu, du grand bond en avant à la fin des années 50, qui a causé des plus terribles famines du XXe siècle. Plus de 20 millions de Chinois en sont morts, et ce qui a considérablement déjà terni l'image de la Chine à l'international, même si les informations filtraient encore assez peu à cette époque, et même le fait de se rendre en Chine était encore très difficile. Mais malgré ça, la Chine jouissait d'un certain prestige, et c'est pour ça qu'un peu partout en Occident est apparu ce mouvement d'amitié avec la Chine, dont le but était tout simplement de faire connaître la Chine, très mal connue encore à l'époque, de la faire connaître et bien sûr ensuite de la faire aimer. Les termes utilisés à l'époque, qui ont été utilisés jusqu'aux années 80, étaient la Chine voulait développer l'amitié entre les peuples et la compréhension mutuelle pour maintenir la paix dans le monde. qu'une rhétorique qu'on connaissait déjà à l'Union soviétique et qu'a repris à son compte la Chine maoïste. Alors pourquoi avait-on besoin de développer ce mouvement d'amitié ? Eh bien, on peut rappeler que quelques mois en Suisse, quelques mois après cette reconnaissance diplomatique de la part de la Confédération, on trouvait dans un hebdomadaire alémanique comme Zeitung Air un article qui s'interrogeait sur le temps qu'il faudrait pour fusiller les 450 millions de Chinois, en se livrant à des petits comptes d'épicier, en se demandant si on les alignait, en leur tirant de bas dans la tête pour économiser le nombre de balles, combien de temps ça prendrait. Donc, voilà, un article, peut-être qu'on dirait aujourd'hui, d'un racisme décomplexé. Et c'est bien face à ce genre d'attitude face à la Chine qui mêlait autant un racisme, donc venu ce fameux mythe du péril jaune, on craignait un afflux massif des masses asiatiques, d'abord japonaises, ensuite chinoises en Occident, mêlé à un anticommunisme assez féroce, en Suisse particulièrement, mais dans beaucoup d'autres pays occidentaux. Et donc c'est pour remédier à cela et pour ce que ces gens-là disaient, vouloir être dire la vérité sur la Chine, donc contredire ces mensonges des médias bourgeois, qu'un mouvement d'amitié, dont vous avez le sinogramme ici d'amitié, s'est développé. Et là aussi, la Chine a repris, plutôt les pro-chinois à ce moment-là, ont repris une stratégie développée par l'Union soviétique, c'est-à-dire que le but n'était pas non pas de prêcher des convaincus, de rassembler des socialistes ou des communistes pour leur redire à quel point la Chine est merveilleuse, mais au contraire d'atteindre des masses indifférentes ou hostiles à la Chine en les rassemblant dans des associations d'amitié qui affichaient un but plutôt consensuel auquel qu'on pouvait partager sans être nécessairement convaincu, qui était de développer des relations avant tout sur le plan culturel avec la Chine, justement. Et ces associations sont apparues un petit peu partout en Occident, aussi bien au Japon, ancienne puissance ennemie, qu'aux États-Unis, très, très anticommunistes évidemment, que dans des pays très différents comme la Suède, le Chili, la Nouvelle-Zélande, le Luxembourg, etc. Et ces milieux-là n'étaient pas uniquement des milieux de gauche, et ils discutaient et collaboraient de leurs activités avec des milieux comme, c'était particulièrement le cas en Grande-Bretagne, les milieux de la sinologie, les spécialistes de la Chine acceptaient de discuter avec des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, mais pour se mettre d'accord, de développer des relations avec la Chine, ou comme c'était le cas en Belgique, des milieux économiques collaboraient avec des partisans de la Chine, notamment parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises belges qui ont contribué à construire les chemins de fer en Chine. Et bien sûr, derrière ce but assez consensuel de développer des relations culturelles avec la Chine, se cachait un objectif plus ou moins assumé, qui était celui de faire reconnaître par leur gouvernement, donc pour le gouvernement suédois, Suédois l'avait déjà fait, mais le gouvernement français, le gouvernement belge ou le gouvernement mexicain, que ces gouvernements-là reconnaissent la Chine maoïste comme la Chine légitime. Et c'est exactement pour ça que dans les années 50, eh bien, il n'y avait pas besoin, entre guillemets, d'association d'amitié avec la Chine en Suisse, puisque le gouvernement avait déjà reconnu Pékin comme légitime. Ce qui n'a pas empêché des milieux pro-chinois d'apparaître, tout d'abord autour d'une association qui s'appelait Peuple et Culture, donc d'abord née à Zurich à la fin des années 30, avec un objectif assez simple, enfin, c'est une association d'éducation populaire. Le but était en quelques mots d'amener les ouvriers au théâtre, au cinéma, dans les expositions, etc. C'était une association assez proche des milieux antifascistes à la fin des années 30, proche des jeunesses socialistes, du Parti du Travail, et qui a connu un certain succès. Au milieu des années 50, elle a commencé à se développer dans le reste de la Suisse, et avait entre 300 et 500 membres, et elle organisait des expositions, des conférences sur la Chine, mais sur d'autres pays, socialistes ou non, sur des thèmes politiques ou non, pour faire connaître la culture américaine, ou la culture chinoise, ou la culture africaine, ghanéenne, aux ouvriers. Et on avait des expositions autant sur la calligraphie chinoise que sur les réformes politiques en Chine. Ce sont ces groupes-là qui ont fait les premiers venir les troupes de l'opéra de Pékin en Suisse en 1958. Les troupes d'opéra qui ont été accueillies par des manifestations anticommunistes, notamment à Zurich. Et ce sont les premiers milieux qui ont organisé les tout premiers voyages en Chine. Vous avez ici une photographie d'une la toute première délégation en 1954, qui a été accueillie à son retour en Suisse très fraîchement et qui a été largement conspuée par la presse alémanique à l'époque. Le comédien Alfred Rasser, le deuxième partant de la gauche, a même été boycotté, a perdu un certain nombre de contrats, a été blacklisté pendant quelques années pour s'être rendu en Chine. Et cette association s'est implantée notamment à Genève en 1956 par deux personnages. Alors on pourra peut-être en discuter justement. Max, repris très vite par ces deux personnages qui étaient Max Blum et Hélène Lützelschwab, qui étaient eux des proches du Parti du Travail, qui ont été exclus par la suite. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment d'association entièrement dédiée à la Chine dans les années 50 en Suisse. Quand est-ce qu'elles sont nées ? Et bien pour ça, je dois revenir un petit peu au contexte international, qui est celui de la rupture entre la Chine et l'URSS, justement. J'ai dit que les deux puissances s'étaient rapprochées, ont conclu en 50 un pacte d'alliance, d'assistance mutuelle. Mais après la mort de Staline en 53, et après la déstalinisation en URSS, et bien les désaccords ont commencé à être croissants, les deux puissances, sur des questions notamment de la doctrine de la coexistence pacifique avec le bloc de l'Ouest que la Chine refusait, sur le développement d'un programme nucléaire chinois qui a vu le jour en 64, à tel point que finalement la Chine a commencé à désigner l'URSS comme une puissance révisionniste, c'est-à-dire une puissance qui aurait trahi l'idéal communiste, qui aurait trahi la révolution. Et en été 1960, les milliers d'experts soviétiques qui avait été envoyé sur le sol chinois pour aider à construire le pays, la Chine maoïste, ont été rappelés chez eux. Les choses se sont envenimées jusqu'à la rupture officielle par un document qu'on a appelé la lettre en 25 points, un document très théorique, en juin 63. Et à partir de ce moment-là, la Chine a voulu devenir une alternative à la tête du mouvement communiste mondial. Et elle a massivement investi dans sa propagande destinée à l'étranger. Et pour cela, elle a notamment engagé un certain nombre d'occidentaux, de jeunes occidentaux, pour venir l'aider à améliorer ses capacités de propagande, justement. Et c'est ce qu'on appelait les experts étrangers en Chine. Et parmi ceux-ci, on retrouvait une petite vingtaine de genevois et de genevoises, de neuchâtelois et de neuchâteloises, qui sont partis engagés pour 2 ans au départ en Chine, et qui soit enseignaient le français dans des universités en Chine, à Pékin, à Nanjing ou à Shanghai, ou alors travaillaient à ce qu'on appelle les éditions en langues étrangères de Pékin, c'est-à-dire qu'ils reprenaient les textes théoriques chinois qui avaient été traduits littéralement en français, et ils peaufinaient ces textes pour le rendre pour une grammaire, un vocabulaire plus adapté, pour le rendre ces textes plus digestes, ce qui a quand même pris plusieurs années pour celles et ceux de vous qui sont déjà plongés dans ces textes-là le savent. Et la quasi-totalité ces jeunes gens, parce qu'en général, ils avaient entre 20 et 26 ans, qui sont allés en Chine, sont revenus totalement enchantés de leur expérience. Alors, il faut dire qu'ils vivaient dans des conditions très particulières, vivant tous à l'hôtel de l'amitié. Je ne détaille pas ici, j'en dis quelques mots dans le bouquin. Ces retours, évidemment, enchantés, ont beaucoup effrayé les autorités helvétiques, qui étaient persuadées que ces jeunes avaient été, on leur avait lavé le cerveau en Chine et qu'ils revenaient de dangereux propagandistes. Mais en tout cas, ce sont ces gens-là, à leur retour de Chine en Suisse, qui sont devenus les premiers membres d'associations qui s'appelaient Connaissance de la Chine. Alors, ces associations sont apparues de manière simultanée à La Chaux-de-Fonds et à Genève, puis un petit peu plus tard à Lausanne, ce qui est assez étonnant, je dois dire, en 3 ans et demi de recherche, j'ai pas pu m'expliquer comment elles ont pu apparaître en même temps à La Chaux-de-Fonds et à Genève, puisque j'ai rencontré le fondateur de l'association chaux-de-fonnière, qui m'a dit ne jamais avoir rencontré son homologue genevois, n'avoir pas été au courant. Pourtant, les deux associations, puis celle de Lausanne, avaient le même nom, Connaissance de la Chine. Alors, je ne sais pas, peut-être que des personnes dans le public auront la réponse ce soir, mais je ne sais pas si le nom vient des fameuses conférences Connaissance du monde qui existaient déjà depuis les années 40, ou alors c'était une recommandation des diplomates chinois. Quoi qu'il en soit, ces associations sont apparues à peu près au même moment. Et je vais dire quelques mots en particulier de l'association genevoise, créée par Léon Bouffard, donc, qui était, dans ce contexte des années 60, donc après cette rupture sino-soviétique, qui était un inspecteur de gym à la retraite et qui avait surtout créé la ligue genevoise, la ligue suisse et la ligue internationale de basket amateur à la fin des années 20 et au début des années 30, ce qui lui a valu, je crois, je n'ai pas de preuves tangibles, mais à mon avis, c'est ça. Après avoir organisé des rencontres sportives entre des basketteurs chinois et suisses, ce qui lui a valu d'être invité un certain nombre de fois en Chine dans les années 50, en tant qu'ami du peuple chinois, parce qu'il avait permis à la Chine de développer des contacts avec l'Occident, de briller. Et à la fin des années 50, il était invité un certain nombre de fois en Chine avec sa femme Angèle, qui est devenue très active aussi avec lui. Et il a commencé à donner des conférences à Genève sur la Chine. Qu'est-ce qu'était la Chine, qu'on connaissait très mal, je l'ai déjà dit à l'époque. Et il organisait des conférences, des ventes d'artisanat, des objets qu'il ramenait de ses voyages en Chine. Et autre élément, alors là que j'ai découvert extrêmement récemment, il n'y a pas moins de 2 mois, dans un carnet de voyage de Charles Filippona en Chine, à son retour dans les années 70, où dans ses carnets de notes, j'ai pu retrouver que les diplomates chinois expliquaient que cette association avait été créée à la suggestion de Chen Yi, donc qui était le ministre des Affaires étrangères chinois, en voyage officiel en Suisse, 61, qui aurait suggéré à Bouffard de lancer cette association. Alors, je n'ai pas de preuves au-delà de ces quelques notes, mais c'est une piste très intéressante si c'est le cas. Et alors, dans les premiers membres de l'association, on retrouvait avant tout les proches de Bouffard, notamment ses petits-enfants, qu'il a envoyés ensuite en Chine apprendre le mandarin. Et il organisait, comme j'ai dit, des ventes d'artisanat. Mais petit à petit, sur les étals, on a retrouvé de plus en plus, comme je l'écris dans le livre, à côté des aquarelles et des services à thé, de plus en plus de propagande politique, très clairement, à la fin des années 60, notamment des fameux petits livres rouges. Et cela pour deux raisons. Puisqu'il dépendait pour ces ventes-là du matériel qui lui était fourni par l'ambassade chinoise ou du matériel qu'il ramenait de ses voyages. Et deuxièmement, parce qu'à ce moment-là, de plus en plus de jeunes ont rejoint ces associations, des jeunes politisés qui s'intéressaient très clairement non pas à la Chine millénaire pour ses calligraphies ou la Grande Muraille de Chine, mais pour l'expérience politique lancée par Mao Zedong en Chine. Donc l'association est devenue plus ouvertement militante, même si elle devait afficher encore sur le plan, pour attirer un maximum de personnes, des ambitions culturelles et rester officiellement neutre. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir un succès croissant. C'est exactement le même phénomène qu'on a retrouvé à La Chaux-de-Fonds ou à Lausanne. Les associations ont grandi aussi grâce à ces jeunes membres, plus politisés. Et là, je vais revenir encore une fois à un contexte international pour expliquer cet afflux de jeunes pro-chinois. Et qui est celui, encore une fois, de la rupture sino-soviétique. Donc, après cette rupture entre les deux géants communistes, eh bien, sont apparus dans la plupart des pays, la plupart des partis communistes du monde occidental, en tout cas, des groupes dissidents, sécessionnistes, diront certains, qui ont voulu, pour le dire de manière assez simple, ne plus être alignés sur Moscou, mais sur Pékin. Alors, compte tenu de l'expérience avant tout anti-impérialiste, anti-coloniale de la Chine, ça a inspiré avant tout des partis dans les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, puis d'Europe, avec un tout premier parti maoïste apparu en Belgique autour de Jacques Grippa en 63, puis très vite en Suisse, à Lausanne, dans des circonstances qui sont là extrêmement particulières, parce que le tout premier membre fondateur de parti maoïste est ensuite devenu un informateur pour la police fédérale. quoi qu'il en soit, c'est ce qui a donné naissance petit à petit à ces groupes qui, eux, se disaient marxistes-léninistes. Donc l'enjeu était bien sûr là de défendre la pureté d'une ligne, hein, en se plaçant dans la ligne directe des enseignements de Marx, puis de Lénine, enrichi par la pensée Mao Tse-tung, et se distancier de ce qu'on appelait le révisionnisme soviétique. Donc là, c'est toute la terminologie de l'époque qu'on retrouve. Et ces groupes marxistes-léninistes, ou ML, pour aller plus vite, étaient désignés avant tout par leurs adversaires, à gauche comme à droite, comme des groupes pro-chinois ou des groupes maoïstes. Donc cette désignation vient, à la base en tout cas, plutôt de leurs adversaires, et eux, en général, ne se revendiquaient pas. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, et certains l'assumaient, mais en tout cas, au départ, ce n'était pas leur revendication de s'appeler comme ça. En Suisse aussi, donc, je l'ai dit, on a eu notre parti maoïste, qui s'est donc appelé le PCSML, pour Parti communiste suisse marxiste-léniniste, qui très rapidement a commencé à s'intéresser aux associations connaissances de la Chine, et y a fait, alors là, selon les termes qu'on peut utiliser, il y a fait soit de l'entrisme, soit la noyauté, la infiltrée, comme vous préférez. Mais en tout cas, assez vite, cette association, est pas, la plupart des associations sont passées sous le contrôle de quelques membres du parti maoïste. Vous voyez, il y avait cette association connaissance de la Chine de très loin la plus importante, mais on avait d'autres groupes qu'on appelait des organisations de masse, puisque le but était de toucher beaucoup de gens et pas d'être entre militants. Donc des associations pro-palestiniennes notamment, qui faisaient de l'humanitaire aussi en Afrique subsaharienne, notamment en Angola. La décolonisation a duré jusqu'au milieu des années 70, en Angola, à Mozambique. Puis, à la milieu des années 70 aussi, une association suisse-kampuchéa démocratique, donc c'est le Cambodge des Khmers Rouges. Donc il y avait toute cette nébuleuse un petit peu qui n'était pas formellement contrôlée par le parti, mais dans lequel il avait ses entrées et qui contrôlait plus ou moins en sous-main, ça dépendait toujours des régions, plus ou moins à Berne, à Genève ou à la Chaux-de-Fonds, ça dépendait toujours des périodes. Et autre élément qui a contribué au succès de ces associations, c'est la révolution culturelle. Alors là aussi, pour le dire rapidement, cette révolution culturelle en Chine, c'était une large manœuvre politique lancée par Mao Tse-tung, qui avait été écarté du pouvoir suite à l'échec du Grand Bond en avant, et qui, pour éliminer ses adversaires et retrouver la tête du Parti communiste chinois, a lancé ce qu'il a appelé une révolution de la révolution. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vendu et qu'on l'a beaucoup présenté en Occident. Le but était de désembourgeoiser la révolution chinoise, de la débureaucratiser, mais avec l'aide notamment et surtout dans les premières années, d'un mouvement étudiant paramilitaire qui s'appelait les gardes rouges, les fameux gardes rouges qui agitaient leur petit livre rouge que vous voyez ici. Et ces gardes rouges ont inspiré une certaine jeunesse occidentale qui croyait retrouver dans les gardes rouges une révolte contre l'autorité, contre l'ordre établi. Pour le dire simplement, ce n'était pas du tout le cas, c'était un amalgame qui s'est faite en raison du contexte politique extrêmement complexe de ces années 68. Donc je parle des années 68, c'est une expression large, puisque évidemment ça ne recoupe pas seulement les événements du quartier latin en mai à Paris, mais bien sûr un contexte de contestation sociale, politique, économique plus générale, hein, pas limité à l'Occident, mais au monde entier. Et c'est ce qui a donné lieu, ces années 68, cette identification d'une certaine jeunesse radicale avec les gardes rouges, au mouvement Mao. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que vous voyez à l'écran. C'est simplement pour faire la distinction entre les maoïstes, ce sont les gens dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, pour le dire simplement, c'était des staliniens, des personnages qui suivaient très fidèlement la ligne du Parti communiste chinois. Et de l'autre côté, on a les Mao, apparus dans ce contexte des années 60, qu'on appelait aussi, leurs adversaires appelaient parfois les Mao Spontex, pour spontanéistes, et qui étaient des groupes qui s'inspiraient, on va dire, plus largement de la révolution chinoise, qui piochaient des éléments, notamment là, cette révolte des gardes rouges, l'aspect anti-impérialiste, bien sûr, dans ces années-là, la question de la libération des femmes, qu'on appelait la moitié du ciel en Chine. La Chine a beaucoup investi aussi pour faire sa propagande internationale sur le fait que les femmes avaient acquis l'égalité totale en Chine, ce qui était bien sûr à relativiser. Donc on a toute cette nébuleuse Mao qui est apparue un peu partout en Suisse. Donc il y a des groupes, peut-être que certains d'entre vous, certains ou certaines les connaissent, c'est Rupture, notamment à Lausanne, le mouvement socialiste autonome ou le centre de liaison politique par ici, les révolutionnaires Aufbauorganisation à Zurich. Des groupes, alors je ne rentre pas dans les détails, certains ont été plus ou moins Mao, sont devenus plus ou moins maoïstes, anarchistes, se sont regroupés, ont divorcé, donc les choses, vous le voyez, sont extrêmement complexes, mais sont généralement une nébuleuse Mao. Et ces gens-là sont venus, encore une fois, renforcer les rangs des associations, puisqu'ils s'intéressaient à la Chine, et ce qui leur a donné encore plus de succès. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu, qu'on peut observer, en tout cas à travers les archives, comme je l'ai fait, que dès que le parti maoïste, le PCSML, se développait dans une nouvelle ville, il créait une nouvelle cellule, eh bien une association connaissance de la Chine apparaissait. Et à partir de 1972, le mouvement s'est étendu à la Suisse alémanique, notamment à Zurich, autour de l'EPFZ, avec des étudiants romands, notamment des Genevois, des ingénieurs agronomes ou des étudiants en architecture qui sont partis en gros à l'EPFZ et qui ont créé la cellule du parti qui a essaimé, qui a créé aussi cette association connaissance de la Chine qui en Suisse alémanique s'est appelée Freundschaft mit China, donc plus littéralement amitié avec la Chine. Et donc on a ce développement conjoint jusqu'en 1976 où on avait 12 associations dans les 12 plus grandes villes de la Suisse, à l'exception toujours de Saint-Gall. Et c'est à ce moment-là que la génération, entre guillemets, des fondateurs, comme Léon Bouffard, ont été quelque peu poussés vers la sortie. On trouve notamment ce mot de Bouffard qui est écrit à l'ambassadeur suisse à l'époque, qui constate que les associations ne s'assument plus forcément comme des groupes purement culturels, mais plus clairement politiques. Et voilà, il dit, on en tire les conclusions après 18 ans de service rendu. Donc, laisser la place à une génération plus jeune, plus ouvertement engagée, dirons-nous. Mais cette distinction, pour être très honnête, entre qui est membre du parti, qui est membre de l'association, qui doit être d'accord avec la Chine pour faire partie de la direction ou pas, dans les les centaines de rapports que j'ai pu consulter aux archives contestataires, au Social Archive à Zurich, ou à droite et à gauche, c'est une question qui n'a jamais été tranchée. Aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, puisque j'ai pu faire des recherches aussi en Belgique, en France, aux États-Unis, les débats sont toujours les mêmes. Est-ce qu'on doit exiger que ces personnes-là soutiennent le Cambodge des Khmers Rouges pour être dirigeant ou pas? La distinction est toujours plus ou moins ambiguë, mais j'aime bien utiliser cette image aussi qui vient d'un ancien membre de Connaissance de la Chine Genève, lors d'un voyage en 77. On a l'image d'un côté des maoïstes de Godard dans la chinoise, ceux que je vous ai montrés avant avec leur petit livre rouge, mais les membres des associations connaissance de la Chine, de ce que j'ai pu en voir, ressemblaient plutôt à ça. On avait d'un côté les étudiants très, très politisés, très militants d'un côté, mais bien sûr, la grande partie de ce que j'ai pu voir des fichiers de membres étaient des instituteurs ou des gens, des cols blancs, des professions qui avaient généralement une éducation supérieure, qui s'intéressaient à la Chine pour des raisons ou une autre. On avait aussi des hommes d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires qui venaient aux réunions pour chercher peut-être une opportunité économique lors d'un voyage en Chine et beaucoup de retraités aussi qui s'intéressaient à la Chine pour des raisons totalement diverses. Et sur cette question politique ou pas politique, alors je reprends cette citation d'un ancien membre que j'ai rencontré, « Connaissance de la Chine était noyautée, point ». Il parle en tout cas de ce qu'il connaît, donc l'association genevoise. C'est vrai qu'on était marxiste, on chapeautait, il ne faut pas non plus mentir, même si officiellement on devait être neutre. C'est toujours la question, c'était des dirigeants en général maoïstes à la tête du parti, mais l'association restait ouverte à toutes et à tous, même si c'était toujours, comme je l'ai dit, sujet de chamaillerie, et c'est pour ça que, à l'interne, c'est pour ça que ce qu'on appelait les amis chinois, les diplomates chinois, donnaient un certain nombre de recommandations aux dirigeants des associations, il leur expliquait qu'il ne faut pas céder le pouvoir à ceux qui ne s'intéressent qu'à un seul aspect de la Chine, c'est-à-dire les sinologues, les gens qui viennent s'intéresser à la Chine millénaire, ni ceux qui attaquent la Chine avec virulence et la diffament, c'est-à-dire quiconque critique l'échec du Grand Bond en avant ou de la révolution, les violences des gardes rouges dans la révolution culturelle ou la politique extérieure de la Chine, je vais y revenir, qui est très particulière à ce moment-là. Et surtout, il ne faut pas exclure les camarades révolutionnaires, quoi. l'affaire est assez claire. Et les Chinois aussi donnaient un certain nombre de recommandations sur les activités que devaient organiser les associations. On leur recommandait notamment de répondre aux activités anti-chinoises de la clique de Chiang Kai-shek, Taïwan, et du Dalai Lama en Suisse, puisqu'on sait que les réfugiés tibétains accueillis depuis les années 60 en Suisse jouissaient d'une énorme sympathie au sein de l'opinion helvétique. Donc, il fallait un petit peu contredire cette vision du Dalai Lama en Suisse, en invitant là, des troupes culturelles, là, des ballets, des acrobates, des expositions de peinture, etc., etc. Et effectivement, toutes ces activités, encore une fois, je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails, mais ça consistait pour les associations à distribuer, par exemple, des brochures politiques, mais aussi des livres illustrés, destinés avant tout aux enfants. Le fameux Pékin Information aussi, journal officiel du régime, qui défend la ligne, qui explique la ligne officielle en vigueur en Chine, ou des brochures sur la langue chinoise, l'acupuncture, des traits tout à fait... Il n'y a rien de spécialement idéologique, en tout cas, premièrement là-dedans. Des ventes d'artisanat aussi. Donc des produits, voilà, du papier découpé, des baumes du tigre, encore très exotiques à l'époque. Faire découvrir les rouleaux de printemps, les fameux Zhaozi aussi, les raviolis chinois. Faire venir, encore une fois, ces troupes de l'opéra de Pékin, ou les ballets. Donc sauce Jiang Qing, femme de Madame Mao, qui a remodelé ses opéras sur 8 modèles révolutionnaires. Donc soit en invitant des troupes à se produire à travers la Suisse, soit en diffusant des versions filmées, le cinéma comme l'ABC, le Voltaire, aussi bien à Genève, autour du consulat, qu'à l'ambassade chinoise aussi, à Berne. Diffuser aussi des documentaires d'amis de la Chine, comme le fameux « Comment Yukong déplaça les montagnes », une énorme fresque sur la révolution culturelle en 12 parties, donc en 12 heures, fragmentées bien sûr, qui a été diffusé en Suisse avec un certain succès, hein, qui n'est pas forcément limité à ces milieux pro-chinois. Des conférences, bien sûr, l'activité, en quelque sorte, pilier des associations. J'ai mis cet exemple-là, hein, puisque grâce aux archives, notamment du Club 44, vous pouvez les réécouter, certaines en ligne, hein, puisqu'elles ont toutes été, toutes ou presque enregistrées, donc vous pouvez les retrouver librement. Et bien sûr, l'organisation d'expositions après des voyages en Chine. Le voyage en Chine est devenu, à partir des années 70, la grande activité des associations d'amitié, dans un contexte extrêmement particulier. Et là, encore une fois, je vais revenir au contexte international qui l'a permis. Là, c'est un petit extrait, encore une fois, d'un film amateur ramené par un membre connaissance de la Chine Genève, après un film de Michel Junot, réalisé en 1977. Alors, pourquoi ces voyages en Chine? Alors, bien sûr, on peut s'intéresser à la Chine pour tout un tas de raisons, mais après 1971-72, eh bien la Chine a opéré un revirement, c'est-à-dire on savait déjà que c'était devenu une ennemie de l'URSS, c'était même son ennemi principal à la fin des années 60. Donc la Chine a cherché comme allié, ce qui paraît assez étonnant, mais qui peut paraître logique sur certains aspects, chercher comme nouvel allié les États-Unis. Et donc en 1971, un premier contact a été permis entre les deux puissances à travers des matchs de ping-pong, c'est pour ça que j'ai choisi cette image, des rencontres entre des pongistes américains et chinois, d'abord au Japon, puis ensuite en Chine. Des pongistes qu'on a reçus d'ailleurs en Suisse, en 75, si je ne me trompe pas, ici vous avez un petit reportage de l'époque, avec les pongistes chinois, reçus en grande pompe, là, même par les autorités. Et cette ouverture de la Chine a permis vraiment le retour du tourisme, le retour ou plutôt le début du tourisme de masse en Chine. Et les associations d'amitié, en vertu de leurs relations étroites avec les diplomates chinois, en fait bénéficiaient d'un quasi-monopole sur ces visas. Et donc, dans les années 70, pour le dire très simplement, la façon la plus simple d'aller en Chine, c'était de passer par ces associations. Ce qui fait que ça leur a donné un immense succès, une immense popularité. Ça a été le cas aussi dans la plupart des autres pays. Hein. C'était la même chose en Suède, au Chili, en France, etc. etc. Et c'est ce qui a permis au mouvement donc, de gagner cette ampleur que j'ai montré avant sur la carte, avec 12 associations à travers la Suisse, jusqu'en 1976, puisqu'en 1976, Mao Tse-tung meurt. Très rapidement, la bande des quatre, c'est, en quelques mots, c'était la garde rapprochée de Mao Tse-tung qui l'a aidé à piloter cette révolution culturelle, est arrêtée, est emprisonnée, est désavouée. Et donc, en très peu de semaines, ce que les associations d'amitié ont dû défendre pendant quasi 10 ans, des politiques très radicales, elles ont dû désavouer pour rester des amis de la Chine. Sinon, elles étaient désignées comme des ennemis de la Chine. Donc il a fallu renier 10 ans de son passé à ce moment-là, ce qui était un choc quand même assez considérable pour pas mal de membres. Il y a tout un tas de retournements qui expliquent aussi ce contexte-là. On a quand même commencé à la fin des années 70 à comprendre ce qui se passait au Cambodge avec le génocide des Khmers Rouges, un régime maoïste ultra-radical, on peut le dire, allié de Pékin. Les quatre modernisations, donc c'est ces campagnes, ces réformes économiques, notamment lancées par Deng Xiaoping. Donc appel d'air, en quelque sorte, ouverture aux investissements étrangers, donc direction vers ce qu'on a commencé à appeler dès ce moment-là le socialisme à caractéristiques chinoises. Et puis, ce qui a été un grand choc, notamment pour l'association genevoise, de ce que j'ai pu constater dans les archives, la guerre sino-vietnamienne, donc affrontement extrêmement violent, extrêmement court entre deux ex-puissances ennemies. Et ce qui a marqué, alors là, c'est une expression qu'a utilisée encore la personne que j'ai citée auparavant, membre de Connaissance de la Chine Genève, ce qui marquait, selon lui, l'entrée de la Chine dans la logique de grande puissance. Donc le discours très anti-impérialiste de la Chine semblait vraiment décrédibilisé à ce moment-là, puisqu'on commençait à défendre ses zones d'influence en Asie. Donc on attaquait le Vietnam à ce moment-là pour défendre le régime des Khmers Rouges au Cambodge, etc. Et donc, dans ce contexte-là, fin des années 70, on a des démissions massives de membres un petit peu partout en Suisse, notamment à Genève. Et le mouvement maoïste lui-même, donc vraiment très politique, lui-même a été beaucoup décrédibilisé par ces événements que j'ai mentionnés, mais aussi par des témoignages ou des analyses, comme le fameux « Les habits neufs du président Mao » de Simon Leys, sorti en 73, très mal accueilli par l'intelligentsia parisienne, qui l'a disqualifié, petit milieu parisien très, très maoïste à l'époque, qui n'a été réhabilité, Simon Leys, qu'à la fin des années 70, après avoir dû continuer sa carrière en exil en Australie. Donc, enfin, les membres commençaient à relire à ce moment-là Simon Leys, à s'interroger. Donc, dans ce livre, en quelques mots, Simon Leys explique ce qu'était la révolution culturelle, donc une manœuvre politique extrêmement violente, contrairement à ce qu'on donnait à penser ou à voir la Chine elle-même. Donc le mouvement maoïste a été quasi virtuellement mort à peu près partout dans le monde au début des années 80. Le PCSML virtuellement n'existait quasi plus. Il a vivoté autour d'une quinzaine de membres à Zurich et a finalement disparu voilà, dans l'indifférence générale en 89. Mais le mouvement d'amitié, lui, a continué. Les associations Connaissance de la Chine, même si elles ont perdu beaucoup de membres, elles ont continué à exister. Puisque ce revirement de la Chine convenait, à partir de ce moment-là, aux autorités suisses. Parce qu'un aspect que je n'ai pas traité, que je n'ai pas mentionné dans ma présentation, mais vous le verrez qui est extrêmement présent dans le bouquin, c'est le fait que ces associations d'amitié ont toujours souhaité collaborer avec les autorités helvétiques pour développer des échanges avec la Chine. Mais évidemment, la Confédération s'en méfiait comme de la peste. Hein. Là, on parle, je cite un rapport de police, pour eux, les connaissances de la Chine, c'était des gauchistes à longs cheveux. Donc ça ne les intéressait absolument pas et c'était un potentiel danger de subversion. Mais à partir de ce revirement, là, les images que vous avez à l'écran, c'est l'invitation de la Chine au comptoir suisse à Lausanne. À partir de ce moment-là, les associations ont pu discuter avec l'ambassadeur suisse en Chine, avec les autorités, avec des groupes économiques qui s'intéressaient à la Chine à ce moment-là pour des débouchés évidemment commerciaux. Elles ont participé notamment au tout premier jumelage sino-suisse entre la ville de Zurich et celle de Kunming, dont on a encore des vestiges aujourd'hui. Là, l'image que vous avez ici en bas à droite, c'est celle du Kindergarten qui existe encore hein, au bord du lac de Zurich, à côté du pavillon Le Corbusier, bon, qui a été créé plus tard dans les années 2000, mais enfin c'est un aboutissement de ce jumelage. Et on a vu apparaître à ce moment-là tout un tas de partenariats, notamment le canton de Vaud, la province du Shaanxi, et on a tout un tas de partenariats comme ça qui se sont développés. Alors j'insiste aussi dans le livre sur le fait que ce n'est pas du tout, selon moi, une dépolitisation des associations, puisqu'elles ont toujours été politiques depuis le début. Elles sont devenues très militantes et très radicales des années 60, mais elles ont continué à être politiques, puisque les associations ont continué à défendre la vision de la Chine sur le Tibet, par exemple. dans ces années 80, mais elle discutait avec les autorités. Et c'est ce succès-là qui a enfin permis à la constitution 82 de cette ASAC, qui est l'acronyme de Association Suisse d'Amitié avec la Chine, son équivalent alémanique. Donc il a fallu toutes ces années pour qu'une association fêtière, en fait, nationale se crée, sous l'insistance des Chinois, hein, qui en avaient marre de discuter avec une douzaine d'associations, alors que, par exemple, aux États-Unis, il n'y en avait qu'une. Et donc, à ce moment-là, on a créé cette association qui a commencé à envoyer en Chine des parlementaires, par exemple. Et c'est assez amusant de voir que des personnages comme Caspar Vilger ou Adolf Hoggi ont voyagé avec d'anciens maoïstes en Chine dans les années 80. Des partenariats se développaient avec Swissair à ce moment-là. Ce qui a même permis aux associations, en 84, de créer leur propre agence de voyage, Panda, qui a connu un grand succès. Qui a un petit peu périclité ensuite à cause de dissensions internes. Certains membres sont partis créer leur propre agence, vraiment se professionnaliser dans ces activités-là. Mais enfin, tout ça est arrivé à un terme assez tragique en 89, avec les immenses manifestations de la place Tiananmen, réprimées dans le sang, comme vous le savez. Et pour la toute première fois de leur histoire, les associations d'amitié se sont levées en masse, ont critiqué le gouvernement chinois, ce qu'elles n'avaient jamais fait depuis leur naissance, ont expliqué que leur amitié n'allait plus aux autorités chinoises, mais au peuple chinois. Elles ont commencé à tisser des liens avec des étudiants chinois, notamment à Lausanne, à Zurich, un petit peu à Genève aussi. Et très vite, évidemment, ça a été, après tous les revers que j'ai mentionnés fin des années 70, ça a été le coup de massue pour la plupart des associations qui ont cessé leur activité petit à petit. L'ASAC, créant cette association fêtière nationale en 82, a été finalement dissoute en 92, assez vite. L'agence de voyage Panda, elle, a fait faillite en 89, puisque tous les voyages cette année-là ont été, ou presque, ont été annulés. Alors, il y a quelques petites exceptions. On a l'association de Bienne, animée par un pur maoïste stalinien qui a gardé son soutien aux autorités chinoises, même après la répression qui a continué à exister un certain nombre d'années. On a l'association de Lausanne, Connaissance de la Chine Lausanne, qui a existé jusqu'en 2008, mais qui après a constaté qu'elle organisait avant tout des rencontres entre des gens qui s'intéressaient à la Chine pour un certain nombre de raisons, mais le rôle d'intermédiaire pour faire connaître la Chine semblait un petit peu dépassé, donc elle était dissoute en 2009. Et la dernière exception, c'est l'association Freundschaft mit China à Berne, qui techniquement existe encore aujourd'hui. On continue à organiser des activités. Je vais m'arrêter ici, parce qu'on est arrivé à un certain terme de ce mouvement d'amitié tel qu'il existait. Je pense qu'on va ouvrir maintenant à la discussion ou aux questions, si vous avez des questions sur ces, ou des remarques, évidemment, sur toutes ces choses-là. Je serai très content d'y répondre. Je vous remercie. À Genève, c'était une particularité. On avait une association Connaissance de la Chine, celle que, dont j'ai retracé la généalogie. On avait une association, j'en parle parce que c'est lié aussi au mouvement politique, cette association Peuple et Culture que j'ai mentionnée, hein, créée par Max Blum et Hélène Schulz-Fabre, en 76, est devenue Suisse-Chine. Parce qu'ils sont partis du parti du travail, le peuple, le parti du travail. Ils ont été exclus en 68 pour devenir très clairement pro-chinois. Et on a créé leur activité vraiment axée sur la Chine, et on a appelé vraiment Suisse-Chine en 76. Et là, c'est ce qui m'a... Ben, je suis très content puisque j'ai quelques maintenant documents sur Suisse-Chine, mais j'ai trouvé très peu de documents sur Suisse-Chine. Et il semblait qu'il y avait des relations assez parfois conflictuelles entre les deux, même s'ils collaboraient, hein, en général pour des organisations de voyage ou comme ça. Mais ce qui est assez particulier, et j'y pense puisque les... sur le matériel aussi venu, le matériel venu de la Chine, comment ça formait sur la ligne en général, enfin, je ne sais pas si c'était votre cas, mais lire Pékin Information en général, c'est un petit peu l'incontournable, en tout cas pour un peu voir la ligne officielle. Et c'est justement ces fondateurs de Peuple et Culture de Suisse-Chine qui ont créé une librairie qui s'appelait le livre d'art ou artisanat et littérature chinoise, enfin quelque chose comme ça, et qui était en fait avec la librairie Pinkus de Théodore Pinkus à Zurich, un des deux seuls points officiel de relais pour la propagande chinoise. Donc, il venait tous ces documents chinois, toutes ces brochures qu'on a derrière, notamment. Certaines des brochures illustrées, donc pas forcément des textes très théoriques, hein, il y avait des productions très différentes. Et donc, qui alimentaient aussi beaucoup de, justement, de milieux, non pas seulement PCSML, mais beaucoup des gens qui s'intéressaient à la Chine, plus ou moins largement.
Avec une organisation spatiale très précise quand même. Hélène tenait le, parce que la devanture d'une rue très peu passante quand même vers Rouchaud soit, disons, quand même beaucoup occupée par, des éléments culturels, de vaisselle ou autres, déco, papier découpé, etc., peu de livres. Et puis même à l'intérieur, certaines des choses étaient encore derrière, on va dire.
D'accord. Oh, bon, on retrouve un peu ce fonctionnement. Officiellement, on doit attirer les gens qui s'intéressent à la Chine pour tout un tas de raisons, et ensuite, si on s'intéresse à la politique. Il y a la raison, toujours les raisons officielles et puis les raisons officieuses, surtout avec la Suisse. Alors officiellement, c'est qu'à sortir de la Seconde Guerre mondiale, voilà, le département politique fédéral, comment ça s'appelait le DFAE à l'époque, voilà, défendait des principes sous la direction de Max Petitpierre, principe de solidarité, neutralité évidemment, solidarité, universalité, c'est ses grands piliers. Et comme la Suisse, même au sortir de la Deuxième Guerre, était très très critiquée, d'abord par les États-Unis pour son attitude face au Reich. On savait déjà très bien qu'elle n'avait pas été neutre. Donc il fallait reprouver qu'on était neutre. Et comment le faire? Eh bien, on entretient des relations avec... on développe des relations avec des régimes qui nous sont... on savait très bien, l'anticommunisme était assumé, des puissances non pas ennemies, mais en tout cas pas alliées, ni amies. Donc c'était vraiment pour légitimer, voilà, on est vraiment neutre. Et c'est neutralité, mais universalité. Ce pilier d'universalité aussi, c'est qu'on entretient des relations avec tout le monde. Parenthèse, de fait, c'est faux, puisqu'on a entretenu des relations avec l'Albanie en 1970, puis la Corée du Nord quelques années après, notamment grâce à notre ambassadeur suisse en Chine. C'est notre histoire. Alors ça, c'est les raisons officielles. Les raisons officieuses, c'est bien entendu que la Suisse avait tout un tas d'intérêts en Chine, déjà en 1949. Donc, présence jésuite en Suisse, en Chine, déjà 18e siècle, entreprise de commerce de soie horlogère dès le 19e siècle présente en Chine. Donc on avait des intérêts commerciaux à protéger en Chine. Et on voit les communistes arriver au pouvoir, on se demande s'ils vont tout nationaliser, ils vont tout confisquer, etc. Donc il faut avoir une présence, il faut avoir quelqu'un sur place pour protéger les intérêts suisses, mais les ressortissants aussi, puisqu'il y avait à peu près 150 missionnaires suisses répartis un petit peu partout sur le territoire chinois, de missions protestantes, catholiques, des chanoines, etc. Et la Chine, très clairement anticléricale, a fait subir un certain nombre de persécutions, de mauvais traitements à ces missionnaires étrangers. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de distinction suisse ou pas. Certains sont morts, et donc il fallait aussi protéger les intérêts, protéger les missionnaires ressortissants suisses, en Chine particulièrement, puisqu'on avait des conseils fédéraux qui avaient des liens très étroits avec des missions catholiques. Donc le but était aussi avec ces milieux-là. Autre raison, peut-être, on va dire, qui sera entre les deux, plus ou moins assumée, c'est le fait qu'on avait, mis 30 ans pour établir des relations diplomatiques avec l'URSS. Donc, révolution russe en 1917, la Suisse reprend des relations avec Moscou en 1946, ce qui a causé tout un tas de problèmes pour les échanges diplomatiques, économiques, protection des ressortissants suisses en Union soviétique aussi. Donc il y a ce souvenir en mémoire, plus ou moins consciemment, et le but est de ne pas répéter cette erreur en reconnaissant très vite la Chine. Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est que en allant interroger des personnes qui étaient impliquées dans ces associations, j'ai réalisé une vingtaine d'entretiens, hein, je voulais me baser un peu sur l'histoire orale pour avoir aussi le son de cloche des personnes qui ont été impliquées. Je pensais que il aurait suscité des débats à sa sortie, donc 73-74, on est en pleine révolution culturelle, c'est un modèle, la Chine inspire, en tout cas un modèle inspire à beaucoup de niveaux. Donc je pensais qu'on, mon a priori était qu'on préparait un argumentaire pour contrer Simon Leys dans les conférences, puisque les associations organisent énormément de conférences, hein. Donc chaque association a beaucoup de conférences, donc 12 associations, ça fait beaucoup de conférences chaque mois ou tous les deux mois. Et c'est vrai que ce que les personnes m'ont dit, c'est que de temps en temps, on avait les ennemis héréditaires des maoïstes, les trotskistes, cachés dans la salle, qui, au moment des questions, lèvent la main et disent « Mais oui, les gardes rouges, Simon Leys dit que, etc. etc. » Et mon a priori était de penser qu'il y avait un argumentaire préparé, dire « Ça, c'est faux parce que, ça, c'est faux. » Bien, Simon Leys est biaisé parce que c'est vrai qu'il a appris le chinois à Taïwan, etc. Au début, il a fait un voyage avec un groupe catholique belge, etc. Donc, il y a des points sur lesquels on pourrait... Et en fait, ce que j'ai constaté unanimement, toutes les personnes à qui j'ai posé la question, la réponse était « on n'en parle pas ». On n'en parle pas, même à l'interne, on n'en discute pas. Ça ne vient pas à l'esprit. Ensuite, j'ai demandé « mais est-ce que vous l'avez lu par intérêt ou bien juste pour savoir qui était ce type ?» Et même pas. C'était... Là, en tout cas, mon a priori était apparemment faux, en tout cas, ce que les gens m'ont dit était ce qui était faux. Donc, on ne l'a pas lu, on n'en a pas discuté avant les années 80. Et là, dans les années 80, on voit apparaître, encore dans des archives ici à Genève, on voit apparaître des listes de bouquins à lire, je cite de mémoire, avec beaucoup de précautions, des choses qui commencent à remettre en question le culte de Staline, notamment, quelques excès sur le grand bond en avant, mais Simon Leys n'y apparaît toujours pas au début des années 80. Ça a été... Je ne sais pas si ces personnes-là l'ont lu aujourd'hui encore. PCSML est né de manière très particulière, parce que c'est autour de la personnalité de Nils Anderson, éditeur qui est donc éditeur à Lausanne, à La Cité, qui a créé la maison d'édition de La Cité, qui s'intéressait à la Chine politiquement et a créé ce groupe-là, parce qu'il avait des liens avec les diplomates chinois. Donc lui a créé ça vraiment parce qu'il était, il avait la confiance des milieux chinois, donc il apportait un certain soutien avec matériel en distribuant des brochures gratuitement, qu'il revendait ensuite. Donc, c'est apparu en Romandie pour cette raison-là. Pourquoi c'est pas apparu à Zurich ? Ça, c'est toujours le grand problème des historiens. On peut expliquer pourquoi il y a ça, mais pourquoi il n'y a pas ? c'est toujours beaucoup plus compliqué. Alors, comment ça s'est diffusé ? Ça, je l'ai un peu dit, c'est des romans qui partent, qui créent des cellules. Mais c'est pas uniquement, il y a aussi des Alémaniques eux-mêmes qui ont créé, bien sûr, des cellules, notamment en partant... la fondatrice de l'association zurichoise a en fait fait un stage d'architecture à Florence, si je ne me trompe pas, vous pouvez vérifier. Florence a pris contact avec des milieux maoïstes et à son retour a dit voilà, c'est ça qu'il faut faire, et a créé cette cellule-là. Mais aussi en Romandie, il y avait aussi, les contacts étaient très, très importants avec l'international. J'ai mentionné rapidement le parti, tout premier parti maoïste en Europe, celui de Gripa en Belgique. Et Anderson, fondateur du parti maoïste suisse, était en lien très étroit aussi avec Gripa et avec une association qui portait le même nom, parce qu'au départ ça s'appelait le Centre Lénine, à Milan. Donc les liens internationaux étaient vraiment très importants pour ça. Pourquoi ça a continué plus longtemps en Suisse alémanique, c'est assez compliqué à dire. C'est vraiment quand... Disons qu'il a été vraiment alimenté par 68, quoi, en Suisse alémanique. Et donc, comme il y avait une nébuleuse beaucoup plus importante ensuite autour de ces milieux-là, vraiment étudiants qui animent les associations, qui savent gérer entre les associations et le groupe, ça a continué. Après, au-delà de ça, c'est une bonne question. Mais surtout qu'à partir des années 70, voilà, le parti maoïste suisse pour suivre la ligne de Pékin prend des positions assez étonnantes, assez à contre-courant, pour suivre ce qu'on appelle la théorie des trois mondes. Je n'entre pas dans les détails, mais le parti maoïste suisse revient à défendre l'armée suisse, le service militaire obligatoire, le recours à l'énergie nucléaire. Donc, des choses qui sont passablement à contre-courant de la gauche ou une gauche radicale en Suisse. Donc ça l'aura aussi en Suisse romande aussi. Ça les a pas mal décrédibilisés et isolés du reste de la gauche. Les quelques militants qui étaient membres des associations qui étaient pas dans le PCSML mais dans d'autres groupes, donc Rupture pour le communisme notamment à Lausanne, me disaient que ce PCSML c'était le sectarisme absolu. Quoi. C'était... D'ailleurs, j'ai à proprement dit pas retrouvé d'archives du parti, puisqu'en fait, après chaque réunion, tous les documents devaient être brûlés et jetés aux toilettes. Donc, il était contrôlé par un couple, en fait, ce qu'un membre appelle une direction à la Ceausescu. Deux membres qui, en fait, parlaient, avaient des contacts quasi à personne, un petit peu, c'est comme les organisations clandestines, on connaît juste son supérieur, mais personne d'autre. Ce qui donnait un petit peu l'impression qu'on était dans une grosse machine, etc., alors que au maximum, il y a entre 150 et 200 membres, toute la Suisse. Mais il y avait cette organisation très, très clandestine, mais c'est vrai que on voit le centre tout à fait basculer de Suisse romande à Suisse alémanique après 68. Au début, le centre, c'est vraiment Lausanne avec la Chaux-de-Fonds, les cellules de la Chaux-de-Fonds, puis ensuite, c'est vraiment, on voit les Rennes passent à Zurich très clairement.